Bon, hier, on était dans les cartes de hockey, oui. Oui. Ce que ça génère comme passion, je suis un peu sidéré, là. Parce que j'ai eu tellement de messages hier de collectionneurs, de gens qui investissent beaucoup, là, puis qui, comme tu disais un peu, c'est en montagne russe, hein.
C'est une passion, là.
Absolument.
Oui, puis des périodes où c'est plus payant, puis d'autres pas mal moins. Et là, on va demeurer dans ces produits, cette fois, les fameux chandails de hockey.
Oui, puis la grande différence, c'est que la carte a une énorme valeur perçue, puis historiquement, c'est ça la pièce de collection. Les chandails, peu importe le sport, surtout dans le hockey, c'est à peu près depuis les années 70. Ça ne veut pas dire qu'on ne collectionne pas des chandails plus anciens, mais c'est une vague qui a commencé dans les années 70-80. Moi, ce que je trouve facile, là, c'est que le chandail, c'est quand même le symbole de ton club. Puis dans le cas d'une collection, un des aspects de la collection, c'est tu peux collectionner des chandails authentiques qui ont été portés par un joueur. Fait quand une carte puis un chandail, je suis obligé de dire que personnellement, là, ça c'est juste mon opinion, moi je suis beaucoup plus attiré par le chandail parce que ça symbolise mon équipe ou les équipes ou la beauté complète de cette marque, ce logo d'équipe.
Tandis qu'une carte, ben, c'est avec ton chandail, tu peux afficher tes préférences. C'est pas bien que ta carte d'hockey, c'est moins...
Exactement. Bon, je reviens au côté collection. Quand on est dans une collection, on peut faire une collection pour des raisons personnelles, l'aspect mode, comme tu dis, Alain, tu le portes, là, tu sais. Puis l'autre côté, c'est est-ce que tu veux vraiment débuter une collection pour fin d'investissement? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque, en 2020, là, qui est pas mal d'acheter, d'apprécier et de revendre. Fait que on est pas mal là-dedans. Est-ce que ce soit eBay, pas juste sur des chandails puis des pièces de collection, mais on achète des choses puis des fois, on les, si vous me permettez l'expression, on les flippe, on les revend pas longtemps après. Alors, quand je pense à ceux qui font de la vraie collection, il y a toujours 3-4 principes qui me viennent en tête. Faut toujours acheter le meilleur chandail. Parce que le meilleur, ça veut dire qu'il faut toujours chercher. Donc, le deuxième point, nos recherches, nos devoirs, pour bien comprendre les conditions, la qualité, puis un mot qui est utilisé souvent, ça s'appelle la provenance du chandail. C'est quoi l'historique depuis le début que ce chandail-là a été sorti? Il faut travailler avec une firme crédible, réputée, parce qu'il y en a de la fraude. Il y a toutes sortes de chandails qu'on dit, ben ça, c'est un chandail qui a été porté en 1955, mais où sont les preuves à l'appui? C'est dangereux, cette industrie-là. Fait qu'il faut être prêt à travailler avec des organisations, des entreprises qui ont une réputation d'être crédibles. Puis le dernier point, c'est qu'il faut acheter ce qui nous passionne. De ne rien s'embarquer dans des achats de choses qu'on connaît moins, qu'on est moins intéressé, finalement, on va probablement faire un mauvais investissement. Les deux facteurs les plus critiques dans la collection de chandails, c'est la rareté et c'est le fait qu'il soit porté par un joueur. Là, on est dans une autre catégorie. Quand c'est un chandail qui a été établi comme étant porté par un joueur, de Jean Béliveau à Guy Lafleur à Patrick Roy, ah ben là, la valeur augmente. C'est pas l'autographe. L'autographe, ça change rien dans ça, littéralement. Parce que souvent, c'est au mauvais endroit, puis souvent, ça peut être quelque chose qui peut nuire à la valeur pure du chandail. Mais quand il a été porté, puis on est capable de le prouver. Fait que comment qu'on le prouve? On le prouve avec une technologie, puis avec un aspect qui s'appelle photo matching. Et il y a des compagnies qui sont expertes là-dedans. C'est un peu comme de la science forensique, là, ou médico-légale. On procède à l'analyse de l'autopsie, si on veut, du chandail, sous toutes les coutures, les écussons, les déchirures, les marques. On trouve des photos dans une librairie d'archives qui existe. Et lorsqu'on est capable d'établir qu'on a le chandail ici, dans nos mains, et on a des photos des années 60, 50, 1970, qui prouvent qu'il a été porté, ah ben là, on a une preuve d'authentification. Parce que c'est pas une lettre qui va prouver ça.
Mais un chandail comme ça, ça peut valoir combien? Hier, on parlait de millions pour des cartes de hockey, mais mettons un chandail, je sais pas moi, de...
Guy Lafleur.
Oui, ben j'ai une couple d'exemples pour toi.
Ouais, vas-y, vas-y.
Un chandail recrue de Wayne Gretzky. Il y a un des contacts que j'ai dans l'industrie, là, qui est un des grands collectionneurs mondiaux. Chandail de Gretzky rookie a été vendu l'été dernier à 250 000 US. Un chandail de la toute première édition des Blackhawks de Chicago en 1926. Il n'y a même pas de nom sur le chandail. Fait qu'on ne sait pas à qui ça a appartenu. Mais on sait qu'il est authentique et vérifié. Ça a coûté 62 000 US. Encore une fois, pas de nom. Un chandail de Jean Béliveau de la saison 1960, 80 000 $. Et le bijou de ça, c'est un chandail recrue de Bobby Orr en 1966. Le client l'a acheté à 160 000 $ il l'a revendu 10 ans après à 260 000 $ Alors, encore une fois, bon investissement, faut de la patience, faut être capable de comprendre l'enjeu puis le risque. Puis il y a une dernière chose pour expliquer comment ça fonctionne aujourd'hui. Il y a une compagnie au New Jersey qui s'appelle MeiGray, M-E-I Gray. Pis cette compagnie-là a une licence avec la Ligue nationale de hockey et les autres ligues. Puis ce qu'ils font, Paul, Alain, c'est que les chandails sont numérotés. Ils ont une fibre invisible à l'œil dans le chandail qui est détectable seulement avec leurs appareils. Alors, ils savent quels sont les chandails portés depuis 1997 par les joueurs aujourd'hui. Fait que là, quand quelqu'un dit « moi, j'ai un chandail à vendre », puis ils le mettent sur le site web ou sur Instagram ou sur des sites de collection, ben si c'est pas MeiGray qui est capable de le prouver puis de le certifier, là, tu prends un risque dans ton investissement. Eux autres sont capables de te prouver qu'il a été porté dans un match précis à une date précise.
Mais dès que tu as des produits convoités, puis que c'est souvent pour fin de collection et aussi parfois pour que ça prenne de la valeur, tu sais, je regarde le vin, là, la fraude, il y en a. Il y a un documentaire qui existe qui explique comment quelqu'un a pu comme ça...
Des œuvres d'art.
Aussi, mais tu sais, le vin, là, tu t'attends pas à ça, puis comment des gens ont été floués, ont payé des bouteilles, des milliers de dollars, puis ça n'avait rien à voir, puis c'est...
Écoute, Paul, je connais une situation avec un chandail des Canadiens, OK, dans les années 60, avec un joueur légendaire, je peux pas aller plus loin que ça, là, puis que littéralement, ça a été vendu à quelqu'un, puis on a découvert par la suite qu'on avait un peu maquillé le chandail pour créer les mêmes, mettons, appelle ça des cicatrices, là, les mêmes marques là, sur le chandail que dans une photo pour essayer de le vendre. Ça a été vendu, puis après ça, il y a eu une poursuite par la suite quand ils ont découvert que c'était pas authentique.
Et moi, mais je vais donner un dernier commentaire. Je suis assez étonné, Ray, de voir le prix pour les chandails de grandes vedettes. Si on compare ça au prix des cartes que tu nous as données hier, on parlait de millions.
Oui, mais...
là, on parle de 250.
Oui, mais 300. On parle uniquement dans le hockey, Alain, ce matin. Rappelle-toi, le baseball, c'est une business de 300 millions juste d'un carte, tandis que le hockey, c'est 25 millions. Fait une grande différence. Si on rentre dans un chandail de Babe Ruth des années 20, là, on rentre dans une autre catégorie aussi de grande valeur. Fait qu'effectivement, il y a des différences selon les sports, selon la
mais on a le même phénomène, exemple, un chandail porté par Dan Marino dans le temps ou des choses comme ça.
Absolument. NFL, NBA, ça vaut plus cher que le hockey, c'est l'industrie qui est plus grande. Dernière histoire pour vous raconter,
messieurs,
je me souviens du dossier de contrebande de chandail. Puis ça, c'était un autre sujet pour un autre jour, mais je me souviens qu'on devait, au Centre Bell, aller littéralement dans les rues autour du Centre Bell, aller courir et avec la police, chercher les gens qui vendaient de la contrebande de chandail dans leur coffre d'auto. Puis c'était tous des chandails qui avaient été fabriqués en Chine, qui arrivaient en bateau au port, dans des gros containers. Puis là, il y avait des chandails. Puis ces chandails-là, littéralement, on envoyait entre 50 et 60 % des gens qui portaient des chandails dans le Centre Bell. C'était des chandails de contrebande.
C'est assez récent,
ceux-là
ça,
étaient
pense,
vendus à 35 $ dans la rue. Alors, tu comprends que des fois, les gens veulent s'associer à leur équipe, mais veulent pas le payer le 250 $ non plus. Fait que je les comprends là-dessus, mais c'est une grosse industrie de fausseté, puis de fraude, puis de contrebande.
Merci, Harry. Bonne fin de semaine.
Bon week-end, messieurs.
Et c'est comme les chandails de Céline Dion, le chandail officiel, puis bon. Alors, c'est quand même des fraudeurs, là.
Tout ce qui est collection, comme tu disais, tu parlais du vin. Là,
ben, le vin, des vêtements, des produits luxueux, dès que les gens veulent, sont prêts.
Hey, les montres Rolex à New York, là.
Oui.
T'achètes ça sur la rue, là.
Oui, oui. Pas trop cher. Hein,
parles-tu de Canal Street, là?
Ben, entre autres. Mais tu sais qu'ils se sont poussés à un moment donné parce qu'il y avait tellement d'opérations policières.
Oui, bien ça, avant ça, il y avait les portes dérobées et tout, là. Ça s'est calmé à un moment donné. Il y a eu bien des opérations policières, mais oui. Beaucoup de contrefaçons.
C'est ça, tu sais, t'avais, par exemple, quelqu'un qui prenait le thé, là, qui faisait le thé, puis là, tu descendais dans le sous-sol, puis là, il y avait à peu près 50 sacoches au plafond. Puis...
compte-toi chanceux quand il y avait une fausse montre dans la boîte, parce que moi, j'en connais qui se sont fait donner une boîte qui n'avait pas été ouverte.
Il n'y avait rien dedans.
Une roche pour donner l'impression que ça donnait un peu de poids.
À la 20, mais juste avant, vous rappelez qu'il y a une mise à jour des prévisions météo d'Environnement Canada qui nous laisse entrevoir une possible, je prends les termes, possible bordée de neige pour dimanche.
Oh! Préparons-nous.
Ça veut dire quoi? Combien de centimètres, ça?
Ça, c'est peu.
Une trace au sol.
C'est ça. Une petite bordée.
Ben, une trace au sol, c'est pas une bordée, là.
Ouais, là... On s'entend sur le terme. Il va y avoir une couche de neige.
Ça te fait-tu quoi si on en parle lundi?
Oui, parce que ça me déprime.
On s'en rechassera.
Ça me déprime de savoir que l'hiver s'en vient.
Hey, la vie est belle.
Oui.
Tu comprends? T'es à la radio du bonheur.
Souris, Alain.
T'as des gens qui t'aiment ici. Ta femme t'aime. Tes enfants t'aiment. Tout le monde t'aime.
Non, pas t'es capable.
Merci, bonsoir. La 20.
Oui, 20 ouest au ralenti avant d'arriver au rond-point d'Orval. C'est après.